des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Clotilde Seille, encore une fois aujourd'hui pour vous présenter une autre émission de Des livres plein les oreilles avec toutes sortes de belles nouveautés à découvrir. Nous allons enfin pouvoir parler, je l'espère, à Monsieur Jean-Fred Bourquin, à qui l'on doit Paul Buissonneau en mouvement, bien sûr en mémoire de cet énorme comédien qui avait débuté comme chanteur français installé au Québec depuis qu'il était jeune, très jeune. C'est là qu'il a fondé famille, qu'il a fondé théâtre, qu'il a fondé la roulotte et tout ça. On pourra en parler avec M. Bourquin un peu plus tard. Je vais aussi m'entretenir aujourd'hui avec Mathieu Prost, que vous connaissez peut-être, qui est du Grand Journal, hein, qui travaille là avec Patrice Roy et qui est aussi bénévole chez Vues et Voix. Il va y avoir Corinna Surcelle du CAEB qui va venir nous présenter une chronique. Et puis dans quelques secondes, je m'entretiens avec Bernard Tremblay. Bonjour Bernard.
Bonjour Clotilde.
Ah, il me semble que ça fait une éternité, Bernard. Je me suis un petit peu inquiétée pour votre santé, mais là, ça va bien, là, rassurez-moi.
Ah, une éternité et demie.
Et demie. Ah oui, j'exagère toujours un petit peu. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est dans ma nature.
Ah, moi, ça me fait bien plaisir de vous entendre. Scintillante d'énergie.
Oui, oui, parce que il y a eu des petits moments difficiles, comme vous l'avez su, mais maintenant, ne vous inquiétez pas, tout va très bien, Madame la Marquise, évidemment. Vous savez que le livre dont vous allez nous parler aujourd'hui, Bernard Tremblay, c'est un livre que j'ai moi-même acheté il y a quelques mois. Il y a comme ça des livres que j'achète, que je ne lis pas tout de suite, je les mets un petit peu de côté. Mais celui-ci a attiré mon attention, et puis j'avais lu des très, très bonnes choses à son sujet. Je vous laisse le soin de nous le présenter.
Ah, alors, je vais vous parler de ma lecture de l'été dernier, mais qui est restée présente en moi encore à ce jour. Ébène, aventure africaine,
oui,
d'un journaliste polonais qui a passé 43 années comme correspondant en Afrique. Alors, je crois que son prénom se prononce Roussard Kapuscinski, mais comme il le mentionne dans un autre livre de lui que je suis en train de lire, on peut l'appeler Richard.
Ah bon, d'accord. Sinon, laissez-moi quand même le soin de peut-être de l'épeler pour les auditeurs. Oui. Kapuscinski, c'est K-A-P-U-S-I-N-S-K-I. Il y a des accents là-dessus, mais si vous écrivez cela comme je viens de l'épeler sans accent, vous allez tomber dessus. Voilà.
Oui, oui.
Je précise.
Oui. Alors, avec ce livre et avec Richard, si je peux me permettre, j'ai fait un voyage avec un guide splendide et magnifique. Quelqu'un qui est allé s'installer dans un continent, et non pas un pays où tout va mal, comme on a l'impression en écoutant les infos, un continent peuplé de 2000 nations différentes dans 50 pays aux frontières héritage de la colonisation.
2000 nations, j'ai bien entendu, 2000 nations différentes.
Oui. Ben, tout ce que nous, comme ici, on parle des Premières Nations pour l'Amérique.
Oui.
Ben, quand les Européens sont débarqués en Afrique, il y avait déjà beaucoup de monde dans des sociétés souvent très, très développées, très riches de culture et d'histoire, mais pas nécessairement d'écriture. Alors, nous qui sommes des gens du livre, on arrive, mais quoi, ils n'ont même pas de livre, de papyrus, de papier pour noter les choses importantes.
Mais ils ont autre chose.
On va leur montrer comment faire.
Ah oui.
Ah! Et là, tout ça a laissé plein de traces de séquelles et même de cicatrices.
Oui, j'imagine.
Beaucoup de ces pays portent encore à ce jour. Mais en plus, l'auteur nous amène dans des endroits magnifique et parfois terrifiant quand on pense au désert, bien sûr, mais à la jungle tellement dense où on a peine à mettre un pied devant l'autre sans tomber, à des moments où le climat, nous on se plaint de nos chutes de neige et de notre température qui joue au yo-yo en janvier, mais on n'en meurt pas.
Non.
À moins de sortir sans nos crampons.
Et encore.
Et encore, oui. Non. Mais il est allé à la rencontre aussi des gens. Dans sa démarche, son approche, c'est toujours être où suis-je? Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Qui est-ce qui vit ici? Dans quelles circonstances, dans quelles conditions? Comment ça se fait que ce pays est dans telle situation, a tel gouvernement? Donc, les origines, tous les facteurs qui font que la vie des gens est parfois douce et agréable, parfois, au contraire, extrêmement difficile. J'ai terminé ce livre en me disant, j'ai fait une visite de l'Afrique, d'un continent complet. J'ai rencontré plein de peuples. À présent, je vais être plus attentif aux infos.
Ah oui, hein?
Je saisis mieux qu'est-ce qui arrive.
Oui.
Pourquoi ça va mal? Pourquoi ça va bien? Ah, d'accord. On a laissé des traces.
Oui.
Mais qu'est-ce que les gens en font aujourd'hui?
Oui, c'est ça. Je lisais. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'étais vraiment heureuse que vous m'en parliez. Écoutez, personnellement, je pense que c'est très intéressant ce que je vais vous dire, mais je suis assez fascinée par le continent africain, plus que, par exemple, par l'Asie. Et donc, c'est pour ça que je me suis procuré ce livre-là. J'avais lu, entre autres, à un moment donné, un lecteur écrire « On est loin des clichés d'une population bon enfant qui ne veut rien faire dans la fournaise implacable, touchée par la maladie. Les hommes ne peuvent que survivre et surtout meurent très vite. » Oui, ça existe, mais ça existe aussi chez nous.
Oui, oui, oui.
Hein? On s'entend bien. Qu'est-ce qui vous a... Parce que, bon, il se balade vraiment, vraiment partout. Vous, quelles sont les images les plus fortes que vous avez retenues de ce livre-là? Là, je lisais un monsieur parle d'un combat à mort contre un cobra. Un autre parle de la chaleur accablante. Comment il parle de la chaleur?
Oui, il a vécu des moments de déshydratation où il s'est mis à halluciner.
Oui.
Le fameux combat avec un cobra, il est en route avec un compagnon sur une piste. On parle du milieu des années 60, donc pas de GPS, pas de Google Maps, mais pas de carte non plus. Il est midi, il fait 50 Celsius.
Oh là.
On cherche le point d'ombre, on voit une hutte où il y a des trous, portes et fenêtres. Il entre à l'intérieur, il s'assoit, il s'allume une cigarette. Et sa première inspiration ne sent même pas la chaleur de la cigarette. Il se penche pour éteindre cette cigarette et s'arrête parce que sous sa main, c'est un cobra qui est là, qui s'est réfugié.
Où?
Oui. Alors, à deux hommes, ils vont réussir à écraser la tête de ce cobra, mais avec difficulté.
Ah oui, oui. Puis là, quand on parle d'un combat à mort... Mais encore là, je voudrais pas qu'on revienne dans les clichés. Je veux dire, l'Afrique, c'est pas juste les moustiques et les scorpions. Est-ce que, par exemple, sur le plan humain, est-ce qu'il nous parle de quelques-uns des dictateurs africains?
De certains.
Mm-hmm.
Parfois, pour nous brosser, oui, il était là à tel moment, tel événement, telle indépendance ou tel coup d'État. Mais aussi, il va aller rencontrer les gens. Il va aller à l'extérieur des villes.
Ouais,
okay. Il va être accueilli dans des familles, dans des groupes, et voir comment les gens se sont développés, ont trouvé des ressources pour survivre, non seulement en individuellement en famille, mais souvent en groupe complet.
Oui. Parce que c'est ça, il va... Je pense que finalement, sa plus grande découverte, c'est la découverte humaine. Hein?
Oui, oui, tout à fait.
Hein, les hommes, les gens de ce pays... que ce soit les gens de leur première nation à eux, hein, qu'on appelle comment là-bas les indigènes, plus peut-être, ou je sais pas.
On parle de clan, on parle d'ethnie, de nation. Évidemment, comme tous les peuples qui se sont voisinés longtemps, il y a parfois des rivalités.
Oui, bien sûr.
Mais évidemment, ça a été exacerbé parce que nous, on a laissé avec nos frontières artificielles.
Et moi, vous savez, je me disais aussi, encore une fois, en lisant un commentaire, je me disais vraiment à quel point ce livre était important. Il y a un lecteur qui écrit « Incroyable le degré d'intégration de chaque race à son paysage, à son climat », parle-t-il, dit-il en parlant des gens africains. C'est nous qui façonnons notre décor et c'est lui qui sculpte les traits de notre visage. Parmi ces palmiers, ces lianes, ces forêts vierges et cette jungle, l'homme blanc est comme une pièce rapportée. En fait, là, c'est un extrait que je suis en train de lire. Ouais. Et ça me semblait important. Parmi ces palmiers, ces lianes, cette forêt vierge et cette jungle, l'homme blanc est comme une pièce rapportée, bizarre et discordante. Pâle, ouais. Faible, la chemise trempée de sueur, les cheveux collés, sans cesse tourmenté par la soif, par un sentiment d'impuissance, par le spleen, il a constamment peur. Alors là, bon, des moustiques et de toutes sortes de bibites de ce genre. Oui. Toujours un plaisir de vous entendre, Bernard, vraiment. Je rappelle le titre de ce livre, Ébène, de monsieur Richard Kapuscinski, K-A-P-U-S-I-N-S-K-I. Pour les gens qui, comme moi, n'ont peut-être pas encore eu la chance de découvrir de leurs yeux vus le continent africain, c'est une excellente façon de le faire. Salut. Alors, Bernard.
Moi, ça m'a laissé tout plein de belles, belles images aussi.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, Claudine.
Au revoir.
Au revoir.
Village au fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré. Voici, quand la nuit étoilée, un nouveau-né nous est donné. Jean-François Nico, il se nomme, il est joufflu, tendre et rosé. À l'église, beau petit homme, demain. C'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre au jour. À peine une flamme qui s'élève et qui proclame protection, tendresse, amour. Après 19 années, cœur en émoi, le Jean-François prend pour femme la douce Élise, blanche comme fleur de pommier. Devant Dieu, dans la vieille église, ce jour il se sent marié.
Les cloches sonnent, sonnent, leur voix d'écho en écho. Un seul cœur, une seule âme, fait-il pour être et pour toujours. Soyez une pure flamme qui s'élève et qui proclame la grandeur de votre amour.
Village au fond de la vallée, des jours, des nuits, le temps appuie. Voici la nuit étoilée, un cœur s'endort, François est mort, car toute chair est comme l'herbe, elle est comme la fleur des champs, et puis fruits mûrs, bouquets et gerbes, hélas.
La mort de François Nico. Ne tremblez pas, cœur fidèle. Dieu vous fera signe un jour. Vous trouverez sous son aile, avec la vie éternelle, l'éternité de l'amour.
C'était absolument incontournable et je suis sûre que Jean-Fred Bourquin, avec qui je vais m'entretenir maintenant par téléphone parce qu'il est en Suisse, va être bien d'accord avec moi. Dès l'instant qu'on parle de Paul Buissonneau, on est obligé de parler des Compagnons de la chanson et on est obligé de parler de cet immense succès qu'ils ont interprété, chanté avec nul autre qu'Édith Piaf, qu'on vient d'entendre. Bonjour, Monsieur Bourquin.
Bonjour, bonjour. Vous avez... vous nous avez fait écouter une chanson qui a été composée en Suisse par un compositeur parolier suisse. Oui. Et à l'occasion de la naissance d'un enfant, Jean-François Nico, ils étaient en train de faire la guerre avec le père de Nico et il a dû aller parce que l'enfant était né.
Oui.
Et il a pondu cette chanson. Et oui. Des années plus tard, je me suis retrouvé à la télévision avec un collègue qui s'appelait, il s'appelle toujours, il est toujours vivant, Jean-François Nico. Et il était un peu tanné parce que tout le monde lui disait toujours « Ah, Jean-François Nico, c'est vous, là !»
Ah, c'est vous disait, ben, ah, oui, les trois cloches, c'est vous, OK.
Les trois cloches, c'est vous, voilà.
OK. Monsieur Bourquin, enfin, j'ai envie de vous dire, nous avons été très embêtés par les semaines,
oui.
Mais bon, c'est la réalité. Et puis,
on se trouve enfin.
Voilà, je voudrais m'excuser aussi auprès de nos auditeurs parce que j'ai un petit restant moi-même de cette pneumonie qui me touche parfois. Alors, si vous m'entendez tousser un petit peu à l'occasion, à droite et à gauche, surtout ne vous inquiétez pas, je ne vais pas mourir là dans le studio. Je vais beaucoup mieux, mais mettons, bon, ça peut arriver, d'accord? Alors, Jean-Fred Bourquin, vous êtes suisse, vous vivez là-bas, mais vous êtes un habitué du Québec. Et c'est d'ailleurs au Québec que vous aviez rencontré M. Paul Buissonneau, parce qu'on se demande, on se dit, mais pourquoi c'est un Suisse qui a rédigé cette biographie qui n'en est pas une, qui est une compilation de témoignages plutôt? Ou est-ce que, comment vous dites, vous présentez ça comme une bio?
L'éditeur a trouvé une bonne expression, c'est une biographie chorale.
Oui, c'est ça.
Puisque il y a une trentaine de personnes qui se sont exprimées.
Oui.
Et autour de thématiques que j'avais définies, et j'ai essayé de faire en sorte qu'on ait l'impression qu'ils sont ensemble et que les témoignages s'enchaînent les uns aux autres et que finalement on dresse un tableau de ce personnage complexe qui était Paul.
Oui, parce que complexe, il l'était. Moi, je me suis toujours posé cette question-là, d'ailleurs, avant de lire ce livre, c'est que ce type qui était plus français que français, dans ses expressions, dans sa manière de parler, dans son... Hein, on s'entend,
oui.
a été... tellement aimé et apprécié par les Québécois, qui n'apprécient pas toujours ce type de français franchouillard-là, faut bien le dire, mais ils l'ont adoré, ce bonhomme. Ils ont su, mon Dieu, c'est le mot anglais qui me vient, c'est épouvantable, ils ont su déceler, voilà, quelle est l'ampleur de l'âme de cet homme-là, qui avait une âme aussi forte que sa grande gueule, finalement.
Je crois que Paul Buissonneau aimait beaucoup les Québécois, il aimait
oui.
le Québec.
Oui.
Et puis, il engueulait les Québécois, mais comme il aurait engueulé les Français, ou
oui.
les Suisses, ou les Belges, ou d'autres,
oui.
parce que ce qui était insupportable, il le dénonçait, il le criait bien fort.
Oui.
Et il avait envie que ce pays bouge.
Oui.
Et quand il
oui.
voyait qu'à certains moments... on se faisait manger la laine sur le dos,
ouais.
Il disait ben quand même, prenez votre destin en main.
Exactement.
Et voilà, c'était son message.
Et alors, ça n'a pas été facile pourtant, parce que on pourrait... Bon, donc ça a commencé par les Compagnons, il fait une tournée en Amérique du Nord. Bon, là, il rencontre le Québec. Hein, je fais ça, évidemment, c'est très, très succès d'année, là, mon affaire, mais on a malheureusement le temps comme contrainte. Mais, et donc, il tombe en amour, finalement, il quitte les Compagnons. Hein, de la chanson,
oui, oui,
et
oui.
il s'installe là. Et là, ça n'a pas été facile, mais du tout. D'ailleurs, quand il y a des vieux copains qui viennent le voir, ils se rendent bien compte, hein, que ce soit les Lucienne
et
Boyer,
Aznavour,
Charles Aznavour et compagnie,
oui.
Ils se rendent bien compte que leur Paul, il n'est pas très joyeux, finalement. D'ailleurs, vous l'écrivez, Paul les accueille sans joie, la nouvelle réalité de son existence est rude. Hein. Ils ont eu du mal à joindre les deux bouts avec Françoise à cette époque-là, hein.
Et oui, ben, il s'est retrouvé tout à coup à devoir tout recommencer dans sa vie.
Exactement.
Quelques mois plus tôt, il était sur les scènes du monde entier, parce qu'ils sont allés loin quand même, dans le monde, en
Adulé.
Amérique latine, en Égypte, voilà. Et puis, tout à coup, ben, il se retrouve dans le sous-sol d'un magasin à vendre des disques.
Oui.
Du matériel et Aznavour venait signer ses disques et lui il était avec sa blouse de vendeur. C'était une période vraiment très dure pour son image.
Et heureusement, il y a eu cette fameuse roulotte qui roule encore. C'est le point de départ quand même. C'est ce qui a fait en sorte que tout d'un coup, Paul Buissonneau, dans ce petit parc-là, a fait parler de lui et tout ce qu'il a fait à ce moment-là pour les jeunes comédiens. Quoi. C'est le point de départ de tout, non?
Il y a eu une rencontre et souvent, quand on regarde la vie des gens qui ont réussi quelque chose... Et il y a toujours eu des rencontres avec des personnes, il y a eu des occasions saisies, il y a eu des chances qu'ils ont fabriquées eux-mêmes.
Oui.
Et là, quand on lui propose de prendre cette roulotte qui n'a pas encore roulé, qui est en construction, il imagine tout de suite ce qu'il va pouvoir en faire.
Oui.
Mais en même temps, il a testé des formules au départ. Et il n'y avait pas de comédien. Donc il a pris des jeunes.
Bien sûr.
Et il leur a appris à jouer, à danser, à chanter. Et ça a été une première formation pour eux avant d'aller au conservatoire, notamment, ou à l'école nationale, qui à l'époque n'existait pas. Donc lui, il a créé des cours en parallèle pendant l'hiver pour former ces jeunes à la pantomime, au mime et au rythme surtout. Et tous témoignent en disant mais il nous a ouvert un monde.
Voilà, hein, on pense à Jean-Louis Millette, on pense à Marcel Sabourin, hein, qui est rentré là-dedans aussi et à tant d'autres quoi évidemment. Hein.
Mais pour moi, il est représentatif de l'histoire du Québec parce que le Québec avec la grande noirceur était un peu enfermé sur lui-même, défendait sa langue et sa culture à côté d'une immense Amérique anglophone, et il y a eu des rideaux qui se sont ouverts, des portes qui se sont ouvertes. Il y a des Québécois qui sont allés dans le monde et qui sont revenus avec des expériences. Et puis il y a eu quelques personnages comme lui, mais il y en a d'autres, qui ont apporté quelque chose au Québec et ça a été ce regard sur l'ailleurs, sur d'autres manières de jouer, sur des textes, sur des mouvements. Et cette ouverture a été majeure pour le Québec.
Parce qu'il faut dire que c'était un fou de théâtre. Hein. Même quand il était pauvre, cassé, comme on dit ici, il s'arrangeait toujours pour sortir, pour aller au théâtre. Il allait voir des spectacles. C'était vraiment un fou de la scène, hein, Paul Buissonneau.
Il pouvait voir plusieurs spectacles par jour.
Par jour, oui.
Et il prenait des notes. Quand il allait à Paris... Il courait dans les musées, dans les expositions, dans les théâtres, partout. Il avait une boulimie extraordinaire parce que c'était sa formation qui continuait. Il n'a pas eu une grande formation de base, mais il l'a faite lui-même. Et c'est un semi-autodidacte parce qu'on oublie souvent que quand même il a suivi des cours à Paris avant d'entrer chez les Compagnons de la Chanson avec des gens de théâtre qui étaient de grande qualité et les Compagnons ça a été aussi une école extraordinaire de la tenue sur scène notamment
bien
et
sûr.
Lui a apporté assez vite aux Compagnons des idées de jeu, de tenue en scène, de mouvement, de synchronisation, et il avait tout à fait sa place.
Bien sûr.
Mais bon, avec son mariage, ça devenait difficile. Il partait tout le temps en tournée et les Compagnons n'acceptaient pas forcément qu'il y ait des femmes qui participent aux tournées. Donc lui, il a choisi le chœur et puis il a choisi le Québec.
Est-ce qu'il y a bien la preuve que oui, le théâtre, oui, la scène, oui, la gloire avec Piaf et les Compagnons, mais surtout oui à la vie, quoi, oui à l'expérience, oui à l'aventure, quoi, Paul Buissonneau,
c'était ça.
Et puis il y a, on peut difficilement passer sous silence, le théâtre de 4 sous, évidemment, ça a été aussi énorme ce qu'il a apporté via cette petite place là, qui est devenu magistral et énorme ici à Montréal. À un moment donné, d'ailleurs, il dit, est-ce que c'est page 137, il dit que finalement, ça a été une erreur. À quel niveau il dit...
C'est pas lui qui dit que c'est une erreur.
Ah, c'est pas lui.
Non. C'est autour de lui que on a dit, on lui a mis sur le dos une charge beaucoup trop grande.
Ah, c'est ça. Voilà.
Parce qu'il fallait gérer, administrer ce théâtre, et ça a pris une énergie, ça lui a pris une énergie folle pour tenir cette barque qui était toujours, qui prenait de l'eau financièrement. Et il a dû faire beaucoup de télévision, beaucoup de publicité pour pouvoir renflouer le théâtre. Et ce qui l'a empêché, dans le fond, de créer autant qu'il aurait pu créer.
Oui.
Et c'est vrai qu'il y a eu des réalisations majeures. Et c'est surtout Yvon Deschamps qui dit ça.
Ah,
il
OK.
Dit, on a fait une erreur, on lui a tout mis sur le dos.
On lui a tout mis sur le dos.
Et nous, on l'a laissé un peu lâchement.
Il y a...
Aujourd'hui, Yvon, voilà ce qu'il dit.
Ouais. Il y a, à un moment donné, en page 193, vous écrivez que pour Paul Buissonneau, la transmission, c'est un art.
Oui.
Et je pense à Robert Lepage, qui l'a sorti de Québec aussi.
Oui,
c'est intramuros. Je pense à... Il y a ces mots de Pascal Montpetit en page 199 que j'aime beaucoup, quand elle dit « Il injuriait les gens pour se débarrasser d'une tension. Il ne voulait pas être ordinaire et rester en deçà de ce qu'il pouvait atteindre. Il était un provocateur qui réveillait les gens, qui les fascinait, les claquait, les faisait rêver. Tous les metteurs en scène au Québec, qu'ils aient travaillé ou non avec lui, lui doivent quelque chose. Wow. » Waouh. Il y avait aussi...
Il y a... C'est un livre qui ne veut pas être un hommage. Il ne veut pas être laudateur.
Non.
Et en même temps, on ne peut pas empêcher ceux qui ont travaillé avec lui de lui donner, dans le fond, des notes importantes en disant « C'est un personnage important qui m'a apporté énormément. Sans lui, je ne serais pas devenu ce que je suis devenu, etc. etc. » Et je trouvais ça magnifique.
Ouais.
D'autant plus que quand j'ai parlé à Paul de ce livre, il m'a dit « Personne ne voudra parler
». Quelle erreur ! Quelle erreur !
Personne ne voudra écrire ce livre. Et finalement, je lui ai dit « Écoute, j'ai trouvé la personne qui va te l'écrire, ce livre. » Et il m'a dit « Qui ça ?» Et j'ai dit « C'est moi. Très bien. » Et puis, malheureusement, il est mort peu de temps plus tard. Et quand j'ai commencé à téléphoner, à écrire à tout le monde m'a dit, mais bien évidemment.
Évidemment.
Mais bien sûr que je vais participer à ce livre. Ah. Et comment ? Et là, moi-même, j'ai été vraiment fasciné de voir. Et ce n'était pas l'effet de la mort. Parce que des fois, on est sensible, on se dit, oh là là, on va...
Jean-Fred, Monsieur Bourquin, je vais être obligé.
Oui,
il me reste 7 secondes pour vous remercier d'avoir compilé tout ça. Je vous remercie infiniment et au plaisir de vous rencontrer au Québec. Au revoir.
Oui, merci, au revoir.
Des livres pleins les oreilles, la suite. C'est une habitude, c'est une tradition à cette émission. Puisqu'on parle de livres, eh bien, lisons des extraits de bouquins. Ça me semble être la moindre des choses. J'ai eu donc envie, comme je le fais chaque semaine, de vous lire un petit extrait, deux extraits en fait, du livre de Jean-Fred Bourquin, avec qui je me suis entretenue en première partie de l'émission Des livres pleins les oreilles. Jean-Fred Bourquin qui a donc écrit cette espèce de biographie chorale, comme l'a appelé son éditeur, autour de Paul Buissonneau. Un premier extrait peut-être sur la vraie nature de Paul Buissonneau. Nous sommes en page 15, donc relativement au début du livre. Sa franchise a défié les sensibilités, sa générosité a stimulé les talents, ses conseils ont inspiré moult projets, ses réalisations ont ébloui le public, ses prises de position ont interpellé les esprits et son authenticité a touché bien des cœurs. Celles et ceux qui ont côtoyé Paul Buissonneau ont été marqués par des échanges et des collaborations vécues non seulement dans l'enthousiasme, mais aussi dans l'affrontement. Son exigence et ses coups de gueule sont restés célèbres. En toute chose, Paul Buissonneau a fait preuve d'insolence, d'une belle insolence créatrice, pour reprendre les termes de Louisette Charland. Une insolence aimante lorsqu'il observait l'éclosion des talents et les transformations profondes que vivait la société québécoise. Il encourageait les Québécois à évoluer en les houspillant, et ils s'en souviennent encore. Un autre extrait qui, cette fois-ci, ce sont quelques pages rédigées par Paul Buissonneau lui-même. Alors qu'il était encore en France, il habitait en banlieue parisienne avec ses parents. Ce n'était pas riche, comme vous allez pouvoir le constater. Il écrit ceci, Paul Buissonneau. « Juché sur les genoux du père qui siégeait en bout de table à 4 ans, je dominais tous ces adolescents en grève de la faim. » Difficile à nourrir ces enfants-là. Ma mère ne savait plus où donner de la soupière pour les repas du soir. Le gamin se sentait important si près de son père, dont les moustaches lui chatouillaient les oreilles chaque fois qu'il approchait sa bouche de la cuillère. Dans son assiette creuse, un bouillon gras, bouillant, blanchissait un quart de livre de viande hachée qu'il dégustait poivrée salée. Méchante poutine pour qui n'avait rien d'appétissant. Pas plus en appétit que les autres, fier d'être si proche de ce père qu'il connaissait peu, il avait la sensation de posséder l'immunité suprême qui permet de refuser la soupe impopulaire. Il profitait de cette situation pour s'associer aux autres et délaisser la soupe méprisée par tous. Et puis, chacun atteint ses chaussures en noir sans concertation. C'était arrivé comme la pluie, noir aussi les habits. De retour du teinturier, il fallait s'en accommoder. Le noir de ses vêtements donnait l'impression qu'ils étaient tout neufs. Sans rouspétance et rassurés, nous attendions l'arrivée d'un certain mystère. La mère pleurait. Dehors, sous les eaux que déversait le ciel, naissait une végétation de parapluies qui semblait se cogner les uns aux autres pour rebondir. Un jeu de boules. J'étais le roi de la fête. Ma mère, discrète, disparut derrière le voile de son chapeau. On nous saluait avec déférence. Dès cet instant, les choses avaient changé. Je pris sur moi de croire à cette soudaine importance de la famille. Il fallait apporter à l'événement tout le sérieux qui convenait. Une automobile s'engouffra d'un coup. Le cousin André, sa femme, tante Eugénie, l'oncle Henri, les enfants et leur mère, inconsolables, qui pleuraient contre la vitre. Dans l'église, les fleurs de toutes couleurs, fleurs en perles dans de magnifiques couronnes, brillantes comme le lustre de la tante Nini, étincelante et pleine de gouttelettes qui tombaient comme des larmes pour sympathiser avec tous. Un parfum d'encens, de fleurs et de manteaux mouillés emplissait mon fragile estomac. Mon cœur se soulevait et ma mère pleurait. À côté sur elle, fascinée par les coulures des cierges qui percutaient le sol de marbre, la cire refroidie se transformait en petites billes figées sur une répétition à l'infini. Emportée par ce grand champ où il n'y a personne, je m'endormis, accompagné par un orgue caverneux qui n'en finissait plus de finir. Maman pleure à larmes froides, à larmes de saison. Une procession de fleurs marche. Devant nous, un grand trou noir. Une boîte de bois longue, étroite et pas très épaisse prend sa place lentement comme à regret et disparaît sous une pluie de fleurs fraîches et d'eau glacée. La foule des parapluies se sépare. Courte pointe aux coutures vieillies, morceau par morceau. Elle s'éparpille sous cette pluie qui pleure avec la mer. Bercée par ses sanglots, je rêve au visage fatigué de mon père noyé dans un bouillon jaune et bouillant qui blanchissait, blanchissait, blanchissait dans la rondeur d'une assiette à soupe. C'était du Paul Buissonneau, parce qu'en plus, il avait une belle plume, cet homme-là. Paris, 1930, Juché sur les genoux, c'était un texte inédit dont je viens de vous faire la lecture et ça fait partie, je vous le rappelle, de ce livre Paul Buissonneau en mouvement, écrit, compilé aussi par Jean-Fred Bourquin, un ami, comment on dit, québéco-suisse ou oui, quelque chose du genre, donc de Paul Buissonneau lui-même. Je le reçois pour une nouvelle fois, Mathieu Prost, bonjour.
Bonjour Clotilde.
Mathieu, merci beaucoup d'avoir quitté la Grande Tour pendant quelques instants pour venir nous rejoindre.
Avec plaisir.
Avant, vous n'aviez qu'une rue à traverser. Maintenant, il faut monter un peu plus.
Un
seul carrefour, en fait. Exactement,
oui.
C'est fou, pareil.
Il y a quelques-uns. Quelques
voilà.
Blocs,
Mathieu, vous continuez de lire régulièrement, même si vous êtes au téléjournal absolument tous les soirs et vous êtes là, mais vous continuez fidèlement, en tout cas, vous essayez d'être fidèle à Vues et Voix et vous continuez de lire des livres pour nos auditeurs. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'un bouquin qui m'intrigue beaucoup, je dois dire.
Alors, ça s'appelle « En mémoire de Fred », de l'Américain Clayton Lindemuth. C'est son deuxième livre seulement. Alors, qu'est-ce que c'est « En mémoire de Fred » C'est un roman noir, un roman rural américain. Mais c'est pas un roman glauque, c'est un peu sombre, oui,
ouais.
Mais c'est pas glauque, c'est pas lourd.
C'est pas lourd.
On est quelque part en Caroline du Nord, dans la forêt de Caroline du Nord. La seule petite bourgade du coin, c'est une bourgade imaginaire. Quelques habitants, quelques feux de circulation, pas grand-chose, vraiment. Notre héros, qui s'appelle Creighton, il, lui, il habite dans un campement, dans la forêt. Il y a les restes d'une ferme à côté, mais bref, il vit dans un truc un peu de brique et de broc. Faut le dire tout de suite, c'est quand même pas le type le plus agréable que vous seriez amené à rencontrer.
Okay.
Il est un peu bourru, il est clairement asocial, sinon il vivrait pas tout seul dans la forêt. Il est amoureux de la forêt, il est amoureux de la nature, il est amoureux de ses bains d'eau fraîche qu'il prend dans la rivière, et il est amoureux de son chien Fred. Voilà. Alors, c'est de là que vient le titre.
En mémoire de Fred.
En mémoire de Fred. Fred, c'est un pitbull. C'est un pitbull, mais on a beaucoup entendu parler des pitbulls ici au Québec, à Montréal. Là, c'est plutôt le genre de pitbull qui se pisse dessus dès la première frayeur. Hein. Donc, c'est pas le plus bravache des chiens. Alors c'est ça. C'est quand même lui qui est en couverture du livre. Un beau pitbull.
Il
est magnifique.
Oh là là.
Sur fond d'un drapeau américain un peu amoché, un peu terni, mais bon. Alors, le problème de départ de Creighton dans ce livre, c'est que quelqu'un a fait du mal à Fred. Quelqu'un a fait du mal à son chien. Évidemment, ça passe pas. Qui lui a fait du mal? Eh bien, c'est les gros bras du coin. Une espèce de groupe des gros crétins, qui font des combats de chiens. Ils organisent des combats de chiens dans la forêt, parfois jusqu'à la mort. Tout ça, évidemment, juste pour faire des paris et pour passer le temps.
Et comme c'est un pitbull, si ça avait été un shih tzu,
ça
aurait été correct. Mais comme c'est un pitbull, on fait des combats.
Exactement, parce que ce soit dans cette région de Caroline du Nord, près de Gleason ou ailleurs, les chiens de combat, ça ne pousse pas sur les arbres.
Non.
Donc, les gros bras, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire des rondes la nuit, puis ils récupèrent des chiens à droite, à gauche. Et
d'accord.
Bon, voilà, un jour, Creighton se réveille et on a balancé son chien sur le bord du chemin. Puis il est salement amoché.
Oui, il est vraiment dans un très triste état.
Il est dans un assez piteux état. Il avait l'air d'être piteux quand il était bien portant. Il l'est encore plus maintenant qu'il est estropié.
Piteux.
Oui, puis un petit pitou piteux. Alors voilà, ça part de là. Évidemment, dans l'esprit un peu binaire de Creighton, la seule issue possible, c'est la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Donc, il part dans une espèce de mission, une quête pour aller rendre l'appareil à ses gros bras, qui sont emmenés par une espèce de brute épaisse. Là. Il s'appelle Joe Stipe. J'ai essayé de lui faire, à ce Joe Stipe, la voix la plus grave que je pouvais, la plus caverneuse.
Il parle comment, Joe?
Joe, déjà, il n'a pas un vocabulaire très, très élaboré.
Non, c'est ça,
voilà,
j'imagine.
Ça, mais alors, Creighton, qu'est-ce que tu me veux? C'est ça. Puis il est gros, il est grand, il est baraqué. Alors voilà. Mais comme je disais, c'est quand même pas c'est pas glauque. Il y a beaucoup de dialogues. C'est assez vivant. Ouais. Et oui, c'est l'histoire d'une vengeance, mais c'est quand même très rythmé. C'est un roman d'extérieur aussi. Donc on sent qu'on prend l'air. Et puis c'est parfois drôle. Pourquoi c'est drôle? Parce que les passages les plus drôles, en fait, sont les échanges entre Creighton, notre héros quinquagénaire ou à peu près, et son chien à qui il parle, et donc il lui prête une voix, etc. Et c'est peut-être le petit bout que j'avais,
ah bah oui,
que j'avais
oui,
choisi
oui, extrait,
de vous lire.
D'accord.
C'est sympathique. Comme vous voyez, là, en dessous, on est au tiers, ouais, presque à la moitié du livre, mais d'accord, c'est pas grave, ça ne découvre rien. Alors le voilà, il est déjà parti, notre Creighton, mm-hmm, en expédition pour s'en prendre à ses salauds, et le voici. Sévère la branlée de ce soir. C'est pas l'envie d'aller me blottir dans mon sac de couchage qui me manque. Mais bon, pour tutoyer les sommets comme je le fais, faut être animé d'une détermination hors du commun. J'étire mes muscles couverts de bleu, m'anesthésie à l'eau de vie et balance deux ou trois grosses bûches dans le feu. « Elle leur a plu, Tagnol ?» demande Fred. « Ouais, ils sont fans. T'as après ces dents raclées, t'as pas servi de leçon. En fait, j'ai pété les plombs à l'improviste. Et l'autre fois, c'était pas une raclée, j'étais juste tombé d'un arbre. Si les mecs bien ne pétaient pas les plombs, y aurait plus que les salauds pour le faire. Tu dois être vachement fatigué après un discours pareil, Fred. Il me reste un truc à régler. On se reverra plus tard. Je serais bien allé voir Cory Smiley avant de me rendre à l'arène. Mais ces combats de chiens n'ont lieu qu'une fois par semaine, tandis que Cory est un enfoiré tous les jours.
Et vous, quand vous lisez les livres, c'est toujours une lecture vivante comme ça que vous proposez?
J'essaie de le rendre vivant. Ça dépend vraiment de ce que propose l'auteur,
oui,
de ce que propose l'écriture. Et là, l'écriture se prête merveilleusement bien à lui donner corps, à lui donner
sûr,
de la vue.
C'est bien traduit.
Oui, c'est bien traduit. Ouais, l'écriture est précise. Il n'y a pas trop de fioritures.
Non, c'est ça.
Mais c'est très accessible. Ça se lit très bien et on rentre très bien dans la peau des personnages parce que les personnages secondaires, outre notre Creighton, sont assez bien fouillés, sont assez savoureux. Il y a le fils du shérif qui est un type un peu... Un type qui a pas de morale, mais qui est assez faible aussi, qui est très manipulé par la grosse brute de Joe Sype, et qui, on pourrait croire que c'est un roman uniquement masculin ou animal.
Non, pas seulement.
Il y a des personnages féminins. Okay. Il y a la nièce de Creighton, qui a un rôle assez central dans l'histoire.
Qui n'est pas trop gourde.
Qui est prise avec le fils du shérif, donc elle est un peu... Mais sauf qu'elle... Elle se repose un peu sur Creighton. Ils ont une relation compliquée et qui se développe beaucoup au cours du livre. Qui est très sympathique. Il y a son ex-femme aussi à qui il écrit tous les jours dans l'espoir de la reconquérir. Alors, les personnages féminins sont quand même présents, mais on est quand même dans quelque chose d'assez macho, d'assez...
quand
même l'Amérique
j'imagine.
Profonde, pas très riant.
Il arrive à le venger, le Fred, alors ?
Il développe toutes sortes de stratagèmes et de plein de façons, il arrive à le venger. Il y a une originalité, quand même, dans ce bouquin qui est décrite très, très tôt dans le livre et même qui est décrite en quatrième de couverture, qui est une originalité un peu spéciale, c'est-à-dire que le Creighton en question, il a un don.
Ouais.
Il a un don, c'est-à-dire qui remonte à une électrocution quand il était enfant.
Ah oui ?
Il a le don de savoir dans les yeux des gens, avec une espèce de lumière rouge, quand quelqu'un lui ment ou pas.
Ah !
Bon, très bien. Sauf que, en fait, il ne s'en sert pas beaucoup de ce don-là. Ouais. C'est pas très, très exploité. Et en plus... Pour tout dire, c'est pas le genre de don dont on rêve. Si vous étiez une super-héros, c'est pas vraiment le don que vous commanderiez. T'es volé, ça c'est bien. Lire dans les yeux si on nous ment ou pas, c'est un peu...
Par contre, ça va être utile.
Mais ça ne l'est pas tant que ça. Parce que finalement, c'est tous des roublards, en fait. Donc ils mentent tous, plus ou moins.
D'accord.
Donc son don, lui sert pas beaucoup. C'est un peu comme dans X-Men, je sais pas si vous avez vu ça, mais il y en a un qui se transforme en poisson-chat. Ça n'a aucun intérêt. Il a le don d'être poisson-chat. Bon, très bien.
Mathieu, merci beaucoup. Rappelez-nous le titre de ce livre et le nom de son auteur.
En mémoire de Fred, de Clayton Lindemuth.
Alors, qu'on va épeler Lindemuth. Il avait un autre livre, vous le précisiez, et il est disponible. Je suis allée voir, ça s'appelle Une contrée paisible et froide.
Son premier.
C'est donc son premier. Est-ce que vous l'aviez lu ?
Non,
vous l'aviez pas lu. Mais donc, les deux livres de M. Lindemuth sont disponibles, du moins celui-ci. Ici, il l'est pas.
Dans les prochains jours.
Dans les prochains jours, il le saura. Alors, sinon, on va passer un petit coup de fil et puis on va s'organiser pour qu'il le soit un petit peu plus vite. Merci beaucoup, Mathieu. Bon téléjournal. Alors, je vous laisse retourner à votre bureau, descendre la côte.
Merci
beaucoup d'avoir été là.
Salut, Clotilde.
Salut. Bonjour. Je devrais m'entretenir maintenant avec Corinna.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, merci. Et à vous?
Oui, ça va mieux. Je vous remercie beaucoup. Très, très bien, Corinna, maintenant. Corinna, je rappelle que vous êtes du CAEB et vous allez nous rappeler ce qui se cache derrière cet acronyme-là.
Oui, c'est le Centre d'accès équitable aux bibliothèques.
Voilà. Alors, on a pris la très bonne habitude de se parler une fois par mois, Corinna, pour que vous nous parliez d'un sujet ou d'un autre qui concerne CAEB et les nouveautés en livres que nos auditeurs pourraient se procurer via votre service. Alors aujourd'hui, de quoi sera-t-il question?
Oui, aujourd'hui, je vais parler de deux livres qui sont sur la liste de finalistes au prix de librairie du Québec de 2018.
OK,
ce sont
d'accord.
Des livres nouveaux,
oui.
Nouvellement ajoutés à notre collection.
Mm-hmm.
Donc, le premier dont je vais parler s'appelle « Le palais de la fatigue »,
oui.
Qui est écrit par Michaël Delisle. Et il est nominé dans la catégorie « Roman québécois » pour le prix de librairie.
Oui.
C'est en fait un recueil de nouvelles et qui a également été nominé au prix du littéraire du gouverneur général juste l'année passée.
D'accord.
Il y a juste 6 nouvelles dans ce petit recueil.
Mm-hmm.
Et toutes ces nouvelles sont centrées autour du même personnage et sont toutes narrées par lui.
Ah, d'accord. C'est oui. Toujours la même personne qui fait la narration, c'est bien ça.
Oui,
d'accord.
Exact. Oui, donc dans la première histoire, on le rencontre quand il est très jeune et il est ensemble avec son frère et ils doivent soigner un ourson. C'est okay. Ça la première histoire. Et après, dans la prochaine histoire, qui est, je pense, que c'est la plus longue histoire de ce recueil, on le rencontre encore une fois et il est maintenant au cégep où
oui.
Il songe devenir écrivain.
Okay.
Donc, il entame une relation avec son professeur qui l'introduit à la scène littéraire montréalaise.
D'accord.
Et dans cette nouvelle, le titre de laquelle est « Le palais de la fatigue », donc le titre du recueil.
D'accord.
C'est un peu l'histoire centrale de ce recueil et mm-hmm. On observe le personnage vraiment grandir, devenir un peu plus mature et aussi un peu plus cynique.
D'accord.
Oui, et ensuite, les 4 autres histoires sont très courtes et on rencontre encore le frère, puis on a les amis de mm-hmm. ce personnage. C'est très intéressant.
D'accord, ça se lit assez vite, je pense, hein, c'est
oui,
ça?
Oui, juste 2 heures et 37 minutes.
Voilà, bon, par un petit après-midi de pluie, là, ça c'est parfait, ça.
Exactement.
Oui. Alors, il y avait un deuxième ouvrage, hein, je pense, dont vous vouliez nous parler.
Oui, le prochain livre m'intéresse surtout parce que ça touche aux bibliothèques, juste un petit peu. ça s'appelle « Nos richesses ». C'est écrit par Kouter Adimi et il est nominé dans la catégorie « Roman hors Québec ».
OK.
Kouter Adimi est une écrivaine algérienne qui vit maintenant à Paris. Mm-hmm. Et ce livre prend place en Algérie et un peu à Paris aussi.
Mm-hmm.
Il y a 2 parties du livre. La première partie, c'est l'histoire d'un libraire algérien. C'est dans les années 1930.
D'accord.
Et cette partie est basée sur des faits réels. Donc, ce libraire, son nom est Edmond Charlot. Et il a vraiment existé. C'était le premier à publier Albert Camus.
Uh-huh.
Et aussi pendant la période de censure en Algérie, durant la Deuxième Guerre mondiale,
uh-huh.
Il a publié une des œuvres de Gertrude Stein, qui s'appelait Paris-France, et
oui.
Qui était interdite à cause de la censure.
OK.
Donc, à cause de cette publication, il a été mis en prison pour un mois.
Oui.
Et ça, c'est une partie du livre. La deuxième partie
D'accord.
prend place de nos jours. Et c'est l'histoire d'un jeune ingénieur qui est venu en Algérie pour un stage, dont le but est de fermer la librairie que ce libraire, Edmond Charlot, a commencé au début des années 1930.
Mm-hmm.
Donc, il reste juste un commis de prêt dans cette librairie qui en fait est devenue bibliothèque
oui.
maintenant. Et il essaye, ses commis de prêt essayent, avec le support des gens qui habitent dans ce quartier, d'arrêter la fermeture de la librairie, maintenant devenue bibliothèque.
D'accord.
C'est une histoire très intéressante.
Oui, très intéressante, effectivement. Je voudrais que vous nous rappeliez, parce que je ne l'ai pas bien compris, on parle bien de Kouter Adimi, c'est ça, ou Adim?
Adimi.
Alors, ça s'écrit A-D-I-M-I?
I. Oui,
d'accord.
Et puis, le livre, c'est Nos richesses.
Nos richesses de Kouter Adimi, A-D-I-M-I. Je vais finir par y arriver. Ce livre est déjà disponible via KM?
Non, pas encore. parce qu'il est en train d'être enregistré.
Mm-hmm.
Mais les abonnés au CAEB peuvent le réserver en
d'accord.
format Daisy pour l'avoir une fois qu'il est prêt.
D'accord. Et vous pensez que ce sera long, sachant que l'émission que nous enregistrons aujourd'hui sera diffusée dans 2 semaines, donc aux alentours du... Là, on est le 22 février au moment où l'émission est diffusée. Vous pensez que ça va arriver bientôt?
Je pense que ça va prendre un peu plus de temps.
Un petit peu plus de temps.
Mais il est possible de le réserver.
D'accord. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup, Corinna Surcel, d'être intervenue sur nos ondes pour nous parler de ces 2 finalistes au Prix des libraires du Québec 2018. Ce sera toujours un plaisir de vous parler. Alors, peut-être le mois prochain, à moins que ce soit votre collègue, Faline Beaubier, peut-être, qui soit là.
Oui, peut-être. Je pense que ça sera elle, oui.
D'accord. Alors, vous la saluez de notre part et encore une fois, merci d'avoir participé.
Merci, au revoir.
Au revoir. Alors, je suis contente, j'ai un petit peu de temps pour vous présenter quelques titres en rafale, notamment celui-ci de Micheline Doff, que certains d'entre vous connaissent bien. Ça s'appelle « Mon cri pour toi ». Un petit résumé, merci à Babelio, c'est grâce à cette application que je m'abreuve beaucoup pour vous préparer l'émission des livres pleins les oreilles. Alors on nous dit une fois par semaine, Françoise s'enferme dans un local sans fenêtre, totalement encombré et éclairé par une ampoule unique. Et c'est là, assise devant un vieux piano mal foutu, qu'elle reçoit les confidences d'êtres qui sont en marge, d'êtres humains écrasés de remords, de peur ou de solitude. Seule, en tête à tête, avec des détenus, car il s'agit bien de détenus, celle qu'on appelle Madame Piano enseigne les rudiments de l'instrument, mais surtout elle leur tend l'oreille. Ça fait des années qu'elle les écoute sans juger, en essayant d'oublier les crimes et de rechercher le filon d'humanité. Au fil du temps, bien sûr, une relation privilégiée s'est tissée avec certains prisonniers, une amitié véritable marquée par la confiance et le malheur. Dans ce monde mystérieux et clos, bien sûr, que sont les prisons, on découvre des êtres attachants, rarement repoussants, toujours étonnants. Parmi eux, notamment Christian, condamné à vie à l'âge de 18 ans, qui écoule ses jours en compagnie de son père, détenu lui aussi. « Mon cri pour toi » de Micheline Doff, DU2F. « Adieu Bogota » maintenant de Simone Schwartz-Barth. Schwartz, S-C-H-W-A-R-Z, trait d'union Barth, B-A-R-T. Nous sommes à Paris dans les années 50 avec Marie qui travaille en France dans une maison de retraite. Elle est d'origine antillaise. Elle s'est liée d'amitié avec Jeanne, une dame âgée dont elle s'occupe avec douceur et humanité, qui lui raconte sa vie. Et avant de mourir, sa vieille amie l'incite à écrire sa propre histoire. Et c'est ce qu'elle fait, et c'est cette histoire de cette jeune Mariotte qui quitte la Martinique après l'éruption de la montagne Pelée qui a détruit la ville de Saint-Pierre en 1902 qu'on découvre dans ce livre « Adieu Bogota », dont on dit qu'il rappelle un peu l'œuvre et les personnages de Garcia Marquez, ce personnage qui arpente le monde et le temps, qui ressemble aussi à André Schwartz-Barth, mêlé au monde et toujours en décalage, présent et en même temps ailleurs, étranger. Adieu Bogota. Revenir au monde de Nicole Bordelot. Nicole Bordelot, que nous connaissons bien, qui est une femme qui a passé au travers de bien des épreuves dans la vie, notamment le cancer et récidive, et qui est quelqu'un maintenant qui mène une vie on ne peut plus zen, entre yoga et surtout humanisme. Et revenir au monde, elle en dit, Nicole Bordelot, « J'ai toujours éprouvé une résistance à l'encontre des formules toutes faites et des gadgets qui promettent un éveil instantané. » Je n'ai pas à juger les gens qui ont recours à cela, mais pour ma part, ce n'est pas ce que je recherchais. Je ne cherchais ni à tout chambarder dans mon existence, ni à me forger une nouvelle identité, ni à renoncer au doux plaisir de la vie. Je voulais simplement apprendre à vivre plus consciemment. Et c'est ce qu'elle nous enseigne, ou plutôt c'est ce qu'elle nous partage dans ce livre « Revenir au monde » de Nicole Bordelot. La Tresse, ça c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui, La Tresse, de Laetitia Colombani, comme ça se prononce. Trois femmes, trois vies, trois continents, une même soif de liberté. En Inde, on fait connaissance avec Smita, qui est une intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et rentrer à l'école. En Sicile, on fait connaissance avec Giulia, qui travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'il est victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Et au Canada, on fait connaissance avec Sarah, une avocate réputée, qui va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est gravement malade. Elles sont ces trois femmes liées sans le savoir parce qu'elles ont de plus intime et de plus singulier. Smita, Giulia et Sarah, qui refusent le sort qui leur est destiné, qui décident de se battre. La Tresse de Laetitia Colombani, un très beau bouquin à lire absolument. Voilà, ainsi se referme cette émission pour cette semaine des Livres pleins les oreilles. Je voudrais remercier mes invités, Bernard Tremblay, Mathieu Prost, Corinna Surcel de CAEB et de Suisse, avec qui je me suis entretenue avec lui, Jean-Fred Bourquin pour le livre Paul Buissonneau en mouvement. La semaine prochaine, je vais recevoir Andrea Michaud pour ses polars primés tels que Bondré et Route secondaire. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis. Bonne lecture, profitez-en bien. C'était Clotilde Seille. À la semaine prochaine. Salut. Merci Mathieu Tessier. J'ai failli oublier. Oh là là.